Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Vous voyez, ici, on a déjà commencé aussi à faire la même chose. Avant, quand nous voulions planter quelque chose, il fallait passer les tracteurs 10 fois pour arracher tous les mauvaises, tous les herbes. Alors finalement, on s'est dit, et il fallait beaucoup arroser, finalement, on s'est dit, écoute, on va respecter l'herbe qui pousse naturellement, on fait des petits trous, on met de la terre, de la bonne terre du bois, et on cultive là-bas. Et du coup, l'humidité est beaucoup mieux conservée dans tout l'espace. Ce sont des tomates tournesol. Et là-bas, je vais planter les courges et les courgettes.
Dans le potager du monastère Saint-Benoît d'Incalcate, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire, en tenue de jardinier, frère Raphaël, que nous retrouverons un peu plus tard au cours du reportage, nous fait partager sa passion pour les vers de terre. Permaculture, engrais naturels, soins de la terre, respect de l'environnement et des consommateurs, à Incalcate, autant de savoir-faire d'antan qui se conjugue avec des solutions de bon sens et d'avenir. Dans un moment, pour chanter l'office de sexte, frère Raphaël revêtira l'habit noir des bénédictins. Dans le cœur de l'impressionnante église de l'abbaye, il retrouvera ses frères, près de 40 moines qui aujourd'hui vivent selon la règle de Saint-Benoît. Une règle écrite au VIe siècle et qui, de l'heure du lever à celui du coucher du soleil, respecte en toutes choses le rythme du cosmos. 15 siècles avant l'émergence du concept d'écologie intégrale, 15 siècles avant la parution de l'encyclique Laudato Si, les moines ne vivaient-ils pas dans un climat de sobriété heureuse en lien avec les rythmes de la nature ? Une question que, dans un parloir de verdure, nous posons à frère Colomba, le prieur du monastère.
Alors c'est vrai qu'entre les deux, il y a beaucoup de siècles qui se sont passés, puisque la règle date du 5e siècle. Enfin, Saint-Benoît en tout cas a vécu au 5e siècle, et là où date aussi c'est le 21e, donc il y a un grand écart historique. Mais au niveau de l'esprit de la règle et de l'esprit de Laudato Si, c'est assez similaire, puisque les deux plongent leurs racines dans les évangiles, hein, donc dans l'enseignement du Christ, qui nous invite à prendre soin de la fragilité. Je pense que c'est ça le point commun entre les deux, prendre soin de la nature et prendre soin des choses, des objets dans la règle. Et puis prendre soin des frères, c'est deux aspects qui vont ensemble. Donc c'est pas ou la nature ou les humains, mais c'est les deux. Donc y a ça aussi dans l'Laudato Si. Dans la règle de Saint-Benoît, il y a un beau passage qui traite justement des objets du monastère, des outils du monastère dont on doit prendre soin, et parce qu'ils sont à tous, puisque on met tout en commun, donc les frères n'ont pas de bien en propre, donc chacun doit prendre soin des objets du monastère, des outils, prendre soin aussi bien que des vases de l'autel. En fait, ils sont aussi précieux que les vases de l'autel. Donc c'est dire cette prise en compte du soin. Voilà. Donc au monastère, on essaye à la fois de prendre soin les uns des autres. Et donc moi, j'essaie de veiller à ça en tant que prieur du monastère. J'essaie de veiller à l'unité. L'unité de la communauté, en respectant les différences de sensibilité, différences de génération, de caractère. Donc ça demande beaucoup d'écoute. D'ailleurs, le premier mot de la règle, c'est écoute. Ce terme qui vient de l'Ancien Testament, hein, de Shema Israël, écoute Israël. Et puis dans les proverbes, écoute mon fils. Voilà, c'est Saint-Benoît se réfère beaucoup à ces passages-là de l'écriture.
Dans le parc de l'abbaye, tout en courbe douce, dans un esprit Laudato Si, la main de l'homme s'est fait discrète. Nous rejoignons frère Bernard.
On a changé notre façon de faire. Parce qu'avant, on tendait... Je vais vous montrer. Avant, on tendait tout et on s'est dit que ça ne correspondait plus à rien, que ça ne correspondait pas à quelque chose qui nous... Ça ne dit rien, si vous voulez. Là. On va passer par là, venez. Parce que déjà, au plan économique, disons que si on tombe, déjà, bon, essence, temps, voilà. Est-ce que ça se justifie? Est-ce qu'on veut un parc à la française et à la Versailles, oui? Parce que c'est ça qu'on veut donner aux gens? Est-ce que c'est simplement quelque chose d'esthétique que l'on veut donner? Parce que bon, c'est vrai que c'est joli une pelouse tendue. Hein. Et bon, ça donne aussi l'idée que c'est entretenu, qu'on est là. Enfin, vous voyez, qu'on ne laisse pas à l'abandon. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de, voilà, de ce, un peu extérieur, vous voyez? Et puis, une pelouse tendue, finalement, est-ce que ça porte à la contemplation? Se poser la question, quand même. Hein. Vous voyez?
Alors que des herbes qui sont un peu plus folles, une prairie...
Voilà, si vous voulez, c'est davantage... finalement, on invite, disons, à quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les jardins parloirs. C'est les jardins où on a mis des chaises et des bancs pour que les gens puissent se retrouver. Et donc, on faisait pareil, on tondait tout. Mmh. Vous voyez? Et alors, grâce à cette réflexion, on s'est dit que, bon, ça ne correspondait pas à quelque chose qui était... Puis au plan écologique, si vous voulez, parce que c'est, en fait, c'est venu de là, c'est que quand on tond, on détruit 70% de la faune et entièrement la flore, évidemment. Oui. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Ah, oui,
c'est sûr,
voilà, il n'y a plus rien. Et vous allez voir ce qu'on a maintenant. Alors, c'est un paysagiste ami qui m'a dit, mais puisque tu ne veux plus tondre, pourquoi tu ne ferais pas des chemins dans l'herbe?
Oui, c'est alors, vrai que c'est très beau. Oui.
Vous allez voir. Alors, bon, vous voyez déjà, évidemment, bon, le chemin, on détruit, mais le chemin, il est là que pour souligner le reste, en fait, vous voyez, pour conduire. Et je me suis rendu compte, en faisant comme ça, que finalement, premièrement, pour moi, c'est beaucoup plus créatif, puisque c'est moi qui dois faire le chemin. Et le paysagiste ami m'a dit, tu dois proposer aux gens des lieux que eux ils peuvent pas connaître parce qu'ils sont pas dans les lieux, mais juste les inviter à venir voilà se poser là, s'asseoir là, voilà, vous voyez. Donc j'ai fait dans tout le parc là on va y aller si vous voulez.
Un chemin qui est un cheminement aussi.
Voilà, un cheminement. Et alors ce qui m'a beaucoup oui bon c'est un peu mouillé hein. Ce qui m'a beaucoup frappé si vous voulez, c'est que chacun y trouve quelque chose de personnel. Et ça c'est pour moi c'était la grande surprise, vous voyez, parce que finalement on laisse les gens finalement entrer dans un univers, cet univers-là naturel.
Il y a une liberté.
Touche en profondeur l'univers personnel. Mm-hmm. Beaucoup de gens me l'ont dit, ça, vous voyez.
Oui, alors que quand c'est tout tendu, c'est vrai qu'il y a une uniformité.
Voilà, uniformité qui laisse pas la place à quelque chose de... Et puis, sur une pelouse tendue, on ne marche pas. Vous voyez, c'est souvent marqué pelouse interdite, vous vous rappelez. Et donc là, c'est une invitation à... Et en fait, il y a aussi autre chose qui est très important, c'est que dans la mesure où on laisse la nature faire, vous voyez, donc, bon là, ça ne se voit pas trop, mais vous allez voir, il y a des millions de fleurs, en fait. Et j'ai remarqué que la nature aussi nous rend notre corps.
Expliquez-nous ça un petit peu.
Comment? Oui, parce qu'en fait, déjà, si vous voulez... Tout de suite, là, immédiatement, un lien est recréé avec l'élément naturel. Vous voyez, on est beaucoup plus proche. D'ailleurs, on marche sur l'herbe, vous voyez. Et la cheminée est là. Et donc, si vous voulez, il y a, disons, comment dire, une invitation à retrouver quelque chose qui est plus, qui est moins superficiel, moins profond. Et finalement, moi, vous voyez, je commence à penser à mes pieds, là. Et je me suis rendu compte que j'ai dit aux gens, mais essayez de marcher avec vos pieds.
Ah, parce qu'on marche comment, sur les mains d'habitude?
Oui, on marche pas avec ses pieds habituellement. Non, vous n'avez pas remarqué ça? On marche pas avec ses pieds.
L'intellect, le cerveau.
Mais on marche préoccupé. Oui. Donc finalement, on ne marche pas avec ses pieds, on marche avec sa tête. Et donc on est dans un univers. Vous voyez, en fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on est, finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'ai invité les gens à retrouver une sorte de plénitude corporelle. Vous voyez? C'est-à-dire, finalement, je suis tranquille, il n'y a personne. Et en plus, quand je vais aller vers là-bas, je vais encore plus m'éloigner des, disons, des gens, quoi, ouais, qui pourraient être là. Et donc, je retrouve une sorte de... C'est ça que je vous dis, la nature me rend mon intégrité corporelle, vous voyez.
Oui, tout à fait. Puis là, on...
Vous voyez, vous le sentez, que vous pouvez... Le sol n'est pas tout à fait égal, donc...
Et puis la terre est meuble aujourd'hui.
La terre est meuble en plus.
Et c'est vrai qu'on sent le déroulement du pied,
ça marche,
et des pas.
Et voilà, vous voyez, vous le sentez là. Et c'est comme ça que j'ai compris... Pourquoi les gens, finalement, ils trouvaient ici quelque chose qui était profondément, presque originel. Souvent, ça, le lien avec les parents, les grands-parents revient, vous voyez, ici. C'est étonnant, ça, quand même.
C'est revenir à des, alors, j'avais des fondamentaux, si, des racines, si, si. C'est ça.
Mais oui. Les racines, oui.
Des racines,
la, c'est la terre, ça, elle, la nous terre. Redonne, elle nous redonne nos racines. Parce qu'en fait, je pense que ça vient par le pied aussi. Mm. Ça vient par, et puis c'est bête, hein, mais ça vient par les pieds. Quoi,
non, en
fait,
c'est pas bête.
Et alors, oui, voilà. Donc, le projet, c'était voilà, de faire des lieux où ouais. Les gens pourraient... alors, par exemple, un lieu comme ça...
Alors, il faut expliquer ce lieu. Donc, oui. On est alors, sous voyez, un...
Alors, c'est une sorte d'équivalent d'un marronnier, enfin, à peu près, hein, un petit marronnier. En fait, voilà, ici, si vous voulez, le lieu, c'est, ça va pas être tout à fait la perspective. C'est-à-dire, c'est pas voir... il y a pas beaucoup d'espace, voyez, autour. Mais c'est de... Voilà, l'arbre, il m'offre un écrin. Un écrin où je peux me retrouver, vous voyez, dans... Alors ça, c'est davantage matriciel, vous voyez, c'est un peu... On est dans... Oui, c'est... On est,
oui, c'est on un, est enveloppé. Un arbre un petit peu, enfin, parasol, enfin, oui. Protecteur.
Voilà, c'est davantage une invitation, disons, ouais. à retrouver, disons...
une intériorité aussi.
Une intériorité, et puis même une origine, hein, mon origine, mon père, ma mère, la nature comme mère... Dieu, mère, père, vous voyez, il y a tout ça derrière. Et ça passe par le, ça passe simplement par le fait que je vais pouvoir me, voilà, me, comment dire, me poser au, dans cet arbre en fait.
Il faut préciser donc qu'au pied de cet arbre, vous avez installé une chaise pliante
qui ne se plie plus. J'étais obligé de faire ça parce qu'en fait les pieds s'enfonçaient.
Oui. D'accord, oui.
Donc j'ai mis une barre de bois pour qu'elle s'enfonce plus et pour éviter que le bois soit vraiment en contact avec la terre, j'ai mis du broyat. Et puis en même temps, ça délimite. Voilà, on dit que c'est un lieu un peu différent ici.
Mais tout est en osmose et tout est voilà tout c'est... est en lien. Il y a pas de coupure.
Et en même temps, si vous voulez, comment dire, c'est la nature qui le fait. Quoi. Ouais. Ça s'est fait comme ça en fait. Vous voyez.
Quelques minutes plus tard, dans le potager, avec Frère Raphaël.
Alors qu'est-ce que vous avez là? Vous nous dites, elle sait.
Alors, ce sont des tomates mélangées avec des basilic. Il paraît que le basilic s'associe très bien aux tomates pour éviter les pucerons.
Ça s'associe donc dans la terre, pas uniquement dans l'assiette.
C'est ça. Après, manger les tomates avec les basilic, c'est délicieux. Mais les basilic aident les tomates à ne pas être envahies par les pucerons. Bon, et puisque je suis espagnol, j'ai fait aussi de l'ail d'Espagne. Ça, c'est de l'ail d'Espagne. C'est l'ail qu'on fait chez moi.
Pourquoi il est particulier, l'ail d'Espagne? Alors, il a une saveur, il a une autre saveur.
C'est une autre variété, c'est une variété... Mais j'avoue qu'il a du mal à s'adapter. C'est moi qui suis entêté à l'amener avec moi, mais peut-être ce sera mieux de changer la variété et mettre quelque chose de plus adapté au coin. Peut-être l'ail de Lautrec, nous sommes à côté.
Donc c'est un travail à plein temps.
Alors je partage cet emploi avec la cuisine aussi. J'ai fait la cuisine. Mais c'est bien d'avoir un œil. Dans le potager et un autre dans la cuisine, parce que ça c'est complémentaire.
C'est complémentaire. tout à fait.
Oui, oui. En tout cas, si on va vers un agrandissement du potager, potager permaculture, pour nourrir la communauté, c'est vraiment un emploi à plein temps. Et même pour plusieurs frères.
Oui, parce que là, pour l'instant, vous êtes seul à travailler.
Il y a des frères qui viennent m'aider l'après-midi, des jours en semaine. Oui. Après, je compte aussi avec mes amis les vers de terre. Vous savez que les vers de terre sont une aide magnifique pour les potagers, parce qu'ils travaillent le sol. Et alors, du coup, je me suis mis à produire, à élever des vers de terre. Et c'est ça qu'on appelle le vermicompostage. Mmh. Ça veut dire que j'ai des boîtes en polystyrène où je mets quelques vers de terre.
Et après, vous les introduisez?
Non, ils se reproduisent là-bas et ils produisent un humus, que c'est le meilleur engrais naturel. Un humus liquide, un humus solide. Et je l'emploie pour fertiliser tout le reste. Vous voyez voir mes vers de terre?
Oui, allez, on y va.
Un calcate, nous le comprenons. Les questions liées à l'environnement, à la protection, à la sauvegarde de la terre et plus largement au concept de l'écologie intégrale sont au cœur des préoccupations des moines. Nous sommes toujours dans le potager avec Frère Raphaël. La terre, le jardin, une vocation?
Moi, je n'avais jamais travaillé la terre. Mon métier, avant de venir en Calcat, était aumônier de la marine royale. Je naviguais tout le temps Et en entrant en Calcate, le père abbé m'a demandé de m'occuper, d'aider un frère très âgé, qui avait presque 90 ans, de l'aider au potager. C'est lui qui m'a appris les premiers pas.
Les premiers pas.
Même si j'avais déjà connu ça chez moi, j'avais vu mon père, mais j'étais l'évangement de ma famille. Mm-hmm. Je n'avais jamais travaillé, sauf le moment des vacances, pour aider un peu. Mais c'est vrai qu'après, en me mettant à l'emploi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose en moi qui me rendait facile le travail.
Et puis bon, c'est la relation à la terre, c'est la relation à la création.
En tout cas pour moi, en tant que moine d'une abbaye, avec un horaire de prière, un horaire d'études et tout ça, et le travail au potager, c'est la façon d'équilibrer tout le reste. Mmh. Ça veut dire que quand j'ai besoin de me détendre un peu, je viens et je travaille. Et je travaille avec mes mains, la terre, parce que ça me donne de l'énergie de mêler mes mains avec la terre, avec les fumiers, avec les animaux, les insectes et tout ça. Et ça me détend. C'est quelque chose que si demain le père abbé ou le père prière me demandait de quitter l'emploi pour m'occuper d'autre chose, ça me manquerait. Parce que vraiment, je trouve ici une source de vie. C'est le lien avec la vie, avec la vie la plus vraie. Après, il y a une autre chose, c'est que en faisant le potager, on se rend compte qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Ça veut dire, on fait son mieux, mais après, tout dépend d'autre chose que n'est pas toi. Ça veut dire, ça dépend de la pluie, ça dépend du soleil, ça dépend des insectes. Et ça me rend aussi humble, dans le sens que je fais ce que je peux, mais après je peux échouer ou je peux réussir. Mais en tout cas, ni l'échec, ni la réussite ne va pas dépendre de moi.
Un petit peu quand même. Tout le soin que vous portez, il faut donner du soin.
Bien évidemment, on travaille, on fait ce qu'on peut. Mais après, c'est vrai que par exemple, nous sommes à point de commencer la ramasse de cerises, dans les vergers. Alors, je suis ici depuis 4 ans et 2 ans sur 4, on a échoué parce qu'il a trop plu pendant le mois de mai. Les cerises ont trop grossi, ont éclaté et ont pourri.
Et donc, il n'y a pas de confiture.
Et c'est à ce moment-là qu'on te dit, écoute, tu travailles, mais après, il faut compter aussi sur un autre. En plus, ici, on a fait le choix de ne pas employer des moyens qui ne sont pas naturels. Ça veut dire, on n'emploie pas de pesticides, pas des engrais chimiques. Vous voyez, maintenant, je suis en train de mettre des fumiers. Des fumiers. Et là-bas, je vais planter mes tomates. Et après, si j'ai un problème de pucerons, je compte sur les coccinelles. Et si jamais les coccinelles ne peuvent pas m'aider trop, tout au plus, je peux employer des savons noirs. Et c'est tout.
Le savon, vous le faites ici?
Oui,
oui vous...
un savon noir avec de la cendre. Et après, c'est la joie, c'est le jour où je ramasse les tomates et je prends une bruetée de tomates et je vais à la cuisine. Et les frères se régalent en mangeant des vraies tomates.
Et vous produisez pour votre
consommation, et pas même pour toute la consommation. Ça veut dire que nous ne sommes pas autonomes.
Oui.
Nous ne sommes pas autonomes. Parce que c'est une communauté de presque 40 frères, et en plus les hôtelleries, et nous n'arrivons pas à produire pour tous. Après, il y a le climat, il y a ici, nous sommes dans le côté nord de la montagne noire, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de soleil tout le temps, c'est pas comme Espagne ça. Yeah. Alors on compte sûrement les mois d'avril jusqu'à septembre. Et nous avons aussi un problème avec la terre, c'est que notre terre ici, c'est de l'argile. Alors, ce n'est pas la meilleure terre pour le maraîchage.
On passe
de la boue au béton. Et pour cela, il faut améliorer la terre en rajoutant de la paille, en rajoutant du fumier, en rajoutant du bois.
Et cette réflexion sur l'agriculture naturelle, alors je ne sais pas si vous dites bio,
permaculture,
c'est une réflexion que vous menez ici depuis quelques années à la...
Alors, moi, je suis arrivé il y a 4 ans.
Oui.
Alors, les frères qui s'occupaient du potager quand je suis arrivé, je vous ai dit qu'il avait 90 ans. Oui. Il a maintenant, oui, 92, quelque chose comme ça. Alors, il était en converti à l'agriculture, alors, disons, industrielle. Et il n'était pas pour, mais c'est vrai que quand il m'a transmis tout son savoir, qui était énorme, ce qu'il connaissait des plantes, c'était énorme. Déjà, la communauté s'est posé la question de faire un passage à l'agriculture, disons, naturelle, disons, permaculture, respectueuse avec les plantes et les insectes. Et du coup... On a commencé à faire peu à peu. Vous voyez ici, il y a déjà de la permaculture qui se met dehors. Et à faire seulement de façon artisanale. C'est le choix. En plus, je pense qu'il y a un côté, si vous voulez, idéologique, religieux derrière. C'est-à-dire, il faut respecter ce que la vie nous donne, ce qui nous nourrit. Finalement, il faut respecter, il faut jouer avec ses propres rythmes.
Et puis, un accord avec votre vie ici.
Et ne pas s'imposer de façon brutale.
S'inscrivant dans la tradition monastique, celui où le jardin des simples côtoie le potager, les moines d'Akalkat produisent depuis quelques années un baume à la propolis. Baume bio et naturel comme il se doit. Et ses frères Nathanaël tiennent à la charge.
Le baume à la propolis, c'est ce que fabrique l'abeille pour protéger la ruche, pour la préserver des dégradations, des intrus, des insectes morts, des champignons, etc. Alors c'est le frère Daniel qui a mis au point ce baume. C'était en 2004. À l'époque, il y avait une centaine de ruches. Et le frère qui s'occupait des ruches ne faisait rien de cette propolis, qui en fait est dans la ruche. Et il a brûlé. Et frère Daniel, qui commençait à travailler avec lui au rucher, a vu ça et s'est dit, c'est dommage qu'on n'utilise pas ce produit pour faire quelque chose avec. À partir de là, il a eu l'idée de faire ce baume à la propolis. Et moi, j'ai pris la suite pour la fabrication du baume. En 2018, l'été 2018. Donc la propolis, en fait, elle a des vertus analgésiques, antiseptiques, cicatrisantes, fongicides, aseptisantes.
Tout ça.
Oui, c'est un ensemble de vertus. Et donc, associé aux huiles essentielles, à 5 huiles essentielles qu'il y a dans le baume, donc clou de girofle, lavande, géranium, romarin et eucalyptus. Donc, mélangé à une huile de tournesol, huile de blé et huile d'avocat. Ce mélange, ça donne le baume à la propolis qu'on peut appliquer pour des brûlures, des piqûres d'insectes, pour l'acné, pour différentes...
Des petits ennuis de peau,
etc. Et aussi en massage. Donc pour soulager quand il y a une contracture, après de la marche par exemple, après une journée de marche, on peut masser avec ce baume. Et ça a un effet détendant qui soulage. Ce qui compose le produit, c'est fait avec donc, la propolis que je récupère chez les apiculteurs du Tarn. Oui, je suis en lien donc, avec les apiculteurs du Tarn qui me fournissent leur propolis. Ensuite, je la purifie avec de l'alcool, je la filtre et je l'intègre dans le processus de fabrication. Les huiles, l'huile de tournesol, c'est pareil, c'est un producteur du Tarn. Donc, qui se trouve à Lombers, à 1 heure d'ici, en direction d'Albi, après Réalmont. Et c'est pareil, c'est une huile vierge, biologique, certifiée agriculture biologique.
Puis vous privilégiez les circuits courts aussi.
On essaye, autant que possible. Il n'y a que pour les huiles essentielles, où là, ça vient du côté de Crasse. Et puis, pour les huiles de blé et d'avocat, qui rentrent pour une... petite partie dans la composition, là ça vient de fournisseurs qui sont plus loin.
Si depuis près de 15 siècles, les moines vivent selon les préceptes de l'écologie intégrale, l'appel du pape François les a peut-être redynamisés. Une nouvelle prise de conscience. Frère Colomba
ça redynamise dans le sens où on a beaucoup séparé, en fait, avec l'avènement de la science, de la technologie. On a beaucoup séparé les différents domaines de l'existence. Le corps, l'âme, l'esprit, on a découpé un peu tout ça, alors que c'est un tout, justement. Et le pape nous explique que tout est lié, et donc que c'est complexe. Et que le fait de vouloir séparer, finalement, on simplifie quand on sépare. On simplifie les choses, et donc ça amène à un dualisme qui n'est pas chrétien, en fait. Hein. Le christianisme, c'est pas du tout un dualisme entre le bien et le mal, toutes sortes de dualités. C'est au contraire, c'est des polarités, c'est ce qui doivent s'enrichir les uns les autres, parce que les différences ne sont pas des freins. Au contraire, c'est une richesse, la différence. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans le monde avec les guerres. C'est parce que on refuse l'autre avec sa différence, justement. Et donc, si on arrive à vivre ensemble tout en étant différent, c'est là que peut venir le royaume de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de vivre au monastère à notre petite mesure. On essaie de vivre entre frères, tout ça, voilà.
Les frères, peut-on lire sur le site de l'abbaye, cherchent comment tirer du neuf de la tradition monastique qui n'a jamais envisagé les défis qui sont les nôtres. Par exemple, face à la logique de croissance et de consommation qui est le moteur de l'économie moderne, nous devons réentendre, disent-ils, Saint Benoît, qui demande à chacun de savoir se contenter de ce qui suffit. Et c'est ce que, à travers les éditions du monastère, dans l'atelier de Sitard à la librairie, nous découvrirons la semaine prochaine.